Couleur FM, Espace Public,
Thierry Bord.
Bonjour. Voilà l'édition d'Espace Public de la dernière semaine de juin 2016. Le mois dernier, vous avez eu droit à un format assez spécifique pour notre émission et je vous ai fait faux bond, j'étais parti en voyage, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais dans Espace Public, vous avez retrouvé une émission spéciale que nous avions réalisée, enregistrée, diffusée en collaboration avec plusieurs radios, Radio Chrétienne en France, RCF, Radio Salam, Radio Judaïca, Radio Pluriel à Lyon et Phare FM dans le Nord-Isère aussi. Émission spéciale dédiée à des reportages que l'on a fait à Lyon, en particulier dans le quartier de la Duchère avec toutes ces radios, pour poser la question aux jeunes de ces quartiers, leur question de leur pratique religieuse ou de leur non-pratique religieuse à l'heure de tous les remous que notre société connaît. Il nous a paru important de donner la parole à tous ces jeunes qui puissent exprimer la manière dont ils vivent cette question religieuse. Voilà, alors ça c'était le mois dernier, mais alors ce mois-ci, on va partir en voyage parce que c'est la raison de mon absence le mois dernier. J'étais parti un petit peu loin en Afrique de l'Ouest précisément, au Burkina Faso. Burkina Faso, c'est ça veut dire le pays des hommes intègres, c'est un tout petit pays. Alors c'est entre le Mali, le Niger, le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire, avec au nord un climat très chaud sahélien et au sud petit à petit un climat qui devient un peu plus clément voire tropical, avec beaucoup d'arbres, des forêts de manguiers et de belles images à retenir. Un pays très 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 pauvre aussi, hein. C'est l'un des 10 pays les moins développés du monde. Là-bas, j'ai souvent entendu que l'objectif du Burkina ce serait de devenir un pays en voie de développement. Donc voilà, pays très pauvre mais pays très humain, avec des gens absolument conviviaux, géniaux, un peuple profondément intègre comme son nom l'indique, mais un pays effectivement pauvre et qui ne dispose que de très peu de ressources. Alors voilà, les Burkinabés, ce sont des gens pacifistes, à l'image de la révolution qu'ils ont faite il y a un an et demi à peu près, qui était une très douce révolution, qui leur a permis d'avancer vers de nouveaux dispositifs démocratiques. Pacifistes, et ils ont été aussi profondément marqués par l'attentat islamiste du mois de janvier dernier, qui a détruit un hôtel et laissé de nombreux morts à Ouagadougou, la capitale, dans le quartier central. Voilà, et en plus, les quelques ressources provenant du tourisme en ont pâti assez substantiellement, ce qui n'arrange rien du tout à la situation économique. Voilà, donc le mois dernier, j'ai fait ma valise et je suis parti à Ouagadougou, la capitale, et puis à Bobo-Dioulasso, au sud-ouest du pays, la deuxième ville du pays, à côté de la Côte d'Ivoire. J'étais là-bas guidé par un collègue journaliste, Abdoulaye Ouattara. C'est un journaliste multicarte, il travaille pour RFI, mais aussi à la radio-télévision burkinabé et dans des radios locales. Et puis je suis allé à la rencontre de différentes personnalités. Mon angle d'approche, comme d'habitude, c'était les journalistes et les médias. Je me suis posé la question de comment fonctionnent les médias dans un petit pays très pauvre comme le Burkina, comment y vivent les journalistes, comment ils réussissent à exercer leur métier. C'était aussi à l'occasion d'une formation donnée par Reporters Solidaires, une association de journalistes français, à Bobo-Dioulasso justement. Cette formation regroupait aussi des journalistes venant d'autres pays comme la Guinée ou le Mali. L'occasion là encore d'aller faire un tour un peu plus loin, au Nord Mali, à Tombouctou, où la situation est loin d'être résolue. Nous écouterons donc ce petit périple en deux fois, une première partie aujourd'hui, une seconde la semaine prochaine. Et au cours de ce voyage, nous rencontrerons Gezouma Senogo, le président de l'Union des journalistes burkinabés, Félix Cambiré, le délégué régional ouest du Conseil supérieur de la communication, Abdoulaye Ouattara, journaliste, Kani, le rédacteur en chef du quotidien L'Express du Faso, et puis encore Alousaini Aladki, directeur de Radio Djamana à Tombouctou. Et puis nous irons aussi à la découverte d'une communauté de femmes actives dans un petit village proche de Banfora à la frontière ivoirienne. Mais tout d'abord, je vous propose de retrouver par téléphone notre ami Francis Viali, de Reporters Solidaires, qui va nous expliquer ce qu'est l'association Reporters Solidaires et avec qui on va parler un peu de la situation des médias et des journalistes au Burkina Faso et ailleurs en Afrique. Francis Viali, bonjour. Merci d'être avec nous sur Couleur FM cet après-midi. Alors, on vous appelle pour une raison bien bien précise, c'est parce que on s'est croisé au Burkina Faso, on s'est croisé à Bobo-Dioulasso à l'occasion d'une formation que votre association Reporters Solidaires organisait là-bas, à l'adresse de journalistes burkinabés, mais aussi maliens et guinéens. Et voilà, donc j'avais envie que vous nous guidiez un peu dans cette émission qui va être dédiée à un petit voyage au Burkina Faso pour nos auditeurs. Mais d'abord et avant tout, peut-être ce serait l'occasion de présenter qu'est-ce que c'est finalement Reporters Solidaires.
Alors oui, on va commencer par le début, effectivement, vous avez raison. Donc Reporters Solidaires, c'est une association franco-africaine de journaliste qui est engagé dans l'aide à la formation aux journalistes francophones. Donc nos actions se déroulent essentiellement en Afrique de l'Ouest. Nous avons commencé en 2007 en Guinée. Et puis, un peu plus tard, grâce à une aide de la région Rhône-Alpes, nous sommes allés au Mali et au Burkina Faso, donc au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso, et au Mali, nous devions travailler avec la région de Tombouctou. C'était donc des actions menées avec des régions qui étaient en coopération avec la région Rhône-Alpes. Bon, suite aux événements du Nord Mali, nous avons rapatrié nos actions pour les journalistes de Tombouctou à Bobo-Dioulasso, car nous avons continué à travailler avec eux pendant les événements et notamment pendant l'occupation du Nord. Et avec les journalistes de Bobo-Dioulasso, eh bien c'est c'est un très très vieux partenariat qui date de 2008 maintenant. Voilà. Nous travaillons aussi en Guinée, là où nous avions commencé, et nous sommes retournés en Guinée depuis quelques années grâce à l'aide d'une association lyonnaise qui s'appelle Respublica, et là aussi nous faisons de la formation pour les journalistes guinéens. Pour l'instant c'est à Conakry, et au mois d'octobre nous irons à l'intérieur de la Guinée pour les journalistes de l'intérieur à Kindia. Je précise quand même, parce que quand nous faisons de la formation, les écoles de journalistes font en France font aussi de la formation. Nous, notre action est une action longue durée où nous prenons des journalistes sur des sessions, sur 4 sessions. C'est-à-dire que globalement, nous y allons deux fois par an. Pendant 2 ans. À l'issue de ces deux années, nous avons la possibilité de faire venir quelques-uns de ces journalistes que nous avons formés à l'Institut de la communication de l'Université Lumière Lyon 2 pour passer un master de journalisme, et ensuite ces gens-là retournent au pays, comme on dit, et ils deviennent à leur tour formateurs de reporters solidaires, parce que notre vocation, bien sûr, n'est pas de rester éternellement ni au Burkina, ni au Mali, ni en Guinée.
Voilà, et la vocation, voilà. C'est vraiment le transfert de compétences, le transfert de savoir.
C'est le transfert de compétences. Nous ne sommes pas des professeurs, et ils ne sont pas des élèves, ce sont des journalistes, et nous sommes des journalistes.
Et d'ailleurs, dans Reporters Solidaires, donc au niveau français, ce sont des journalistes actifs ou en retraite qui, justement, ont décidé de se consacrer à cela, ouais. Bah, comme vous.
Oui, tout à fait, oui. Ce sont que des... les membres de Reporters Solidaires, globalement, ne sont que des journalistes. Alors, effectivement, il y a des retraités, parce que il faut sans doute un peu plus de temps pour se consacrer, je veux dire, au planning et au travail de bureau. Mais nous avons aussi un certain nombre de journalistes actifs, c'est-à-dire un peu plus jeunes que moi.
Qu'est-ce qui fait qu'après une vie passée dans les salles de rédaction ou dans les différents théâtres du monde en tant que journaliste, on a envie de transférer ses compétences dans l'un des pays les plus pauvres au monde, finalement?
En fait, c'est relativement simple. C'est-à-dire que quand on va dans ces pays, on s'aperçoit, Christine Cognat, la présidente de l'association, et moi-même sommes allés souvent en Afrique, on s'aperçoit que, eh bien, la pauvreté dans laquelle évoluent nos consoeurs et nos confrères est souvent dramatique, et que, bon, en France, en Europe, hein, je ne veux pas dire qu'en France, en Europe, on ne s'aperçoit pas du confort dans lequel nous évoluons. Et c'est dommage, une fois qu'on a terminé sa carrière professionnelle, de rester chez soi et de pas faire profiter de nos acquis et de nos expériences. Quand nous avons fait venir un certain nombre de journalistes à Lyon qui ont passé donc ce master à l'ICOM, Et quand on voit ce que ça leur apporte, et quand on voit aussi l'engagement qu'eux, à leur tour, mettent en rentrant chez eux, auprès de leurs confrères qui n'ont pas eu la chance de venir, qui ont moins de moyens, c'est vraiment c'est encourageant. Enfin, c'est là-dedans qu'il faut continuer, même si c'est compliqué, parce que tout cela, bien sûr, demande un peu d'argent.
Et que les pouvoirs publics doivent pouvoir encore accompagner. Et d'ailleurs, c'est cette vocation, cet engagement que vous avez là-bas pour aider ces journalistes. Il faut vous disiez que c'est voilà, ici on est dans notre confort, mais c'est vrai que j'ai croisé des journalistes qui ont un courage qu'on rencontre assez peu par ici. Il faut être vraiment courageux pour être journaliste au Burkina Faso, par exemple.
Au Burkina Faso, comme en Guinée, et encore plus
au Mali
et au Nord-Mali, puisque les confrères avec lesquels nous travaillons travaillent dans ces zones du Nord, qui ont été quand même occupées pendant 2 ans, et qui maintenant subissent encore un certain nombre de pressions, d'attentats, et travaillent dans une sécurité précaire, hein, on va le dire. Il faut effectivement du courage. C'est une vocation que d'être journaliste dans ces pays, parce que l'on sait que ce n'est pas la profession dans laquelle par laquelle on va gagner de l'argent, puisque
il y a une très grande pas vraiment de modèle économique
chez les journalistes africains. Oui, on subit en plus des pressions importantes. Bon, il faut noter que depuis la révolution tranquille, hein, du Burkina, la loi sur la presse a été revue et corrigée, et il faut noter qu'au classement mondial de Reporters sans frontières, le Burkina est passé en termes de liberté sur la presse devant la France, avec une mise en place d'une nouvelle loi qui est assez performante, il faut le dire.
Les institutions et les lois sont assez proches des lois françaises, mais le Burkina a réussi à être davantage favorable à la liberté de la presse, à la liberté des journalistes.
C'est-à-dire la liberté de la presse. Depuis les années 90, il y a eu une libéralisation dans tous les pays africains francophones, libéralisation de la presse, qui s'est traduite par création importante de journaux, de quotidiens et autres, hein, hebdomadaires, quinzomadaires, mensuels, tout dépendait de la fréquence de parution, dépendait souvent de l'argent qui pouvait être trouvé pour financer le papier, l'encre et les rotatives. Il y a eu aussi énormément de création de radio. Bon, la télévision, c'est un peu plus, c'est plus compliqué, parce que ce sont en majorité des télévisions d'État. Mais donc cette libéralisation de la presse fait qu'il y a eu un ton de liberté qui s'est souvent traduit par liberté de la presse, signifiant liberté de tout dire, et souvent de dire n'importe quoi. C'est le danger de cette profession, où la plupart des journalistes ont été formés sur le tas, et donc ne connaissent pas, ou ne connaissaient pas, parce que c'est en train de changer, heureusement, ne connaissaient pas les règles de base. Une information, avant d'être publiée ou diffusée, elle se vérifie. Et malheureusement, dans la plupart des cas, cette information ne se vérifiait pas, d'où les problèmes que pouvaient rencontrer les journalistes. C'est pour ça que la formation, quand on parle de formation de cette profession et des journalistes, le journaliste est un métier. Et donc, il y a des règles à respecter. Il y a des lois, bien sûr, qu'il faut respecter. Mais il y a aussi la déontologie, l'éthique, tout ça prend. C'est aussi important, voire plus important que la manière d'écrire ou de parler.
D'accord. Mais au final, les lois et les gouvernements au Burkina sont moins contraignants par rapport à la presse et à l'action des journalistes qu'en France. C'est ça que veut dire le classement de Reporters sans frontières, j'imagine.
C'est peut-être pas comme ça que c'est ressenti. Parce qu'il y a sans doute des institutions qui en France passerait mal, mais il y a une libéralisation de la presse, et il y a qui passe aussi, bon, il faut le reconnaître, par une professionnalisation de ce métier de journaliste, et donc du coup professionnalisation égale quelque chose qui est une presse qui est bien faite et qui s'améliore d'année en année. Donc il ne faut pas regarder ce qui se fait dans ces pays d'un œil hautain en disant nous en Europe nous sommes les plus forts et nous sommes les meilleurs et nous avons la meilleure presse du monde. Non, c'est il faut voir d'où partait la presse et la libéralisation de la presse.
C'est ce qui est passionnant d'ailleurs au Burkina, c'est effectivement cet enthousiasme qui correspond presque à la construction d'un nouveau paysage. C'est quelque chose de nouveau qui est en train d'advenir.
Oui, c'est quelque chose de nouveau. En plus, bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce métier de journaliste en Afrique, hein, il n'y a pas qu'au Burkina, mais en Afrique, est en train de brûler les étapes. C'est-à-dire que nous sommes passés de Gutenberg à McLuhan, enfin, etc., et que nous sommes maintenant dans les réseaux sociaux avec les nouveaux moyens technologiques. Maintenant, en Afrique, on est tout de suite dans les nouveaux moyens technologiques. Donc on brûle quand même des étapes.
Et on réinvente finalement le métier de journaliste à zéro à partir de là, alors qu'effectivement, on a affaire avec tout un héritage qui est un petit peu contraignant.
Tout à fait, tout à fait. Les moyens sont différents, et la lourdeur, j'allais dire, du matériel est différente. Bon, parce que le web va jouer va avoir une grande importance en Afrique, a déjà une grande importance. Il y a quelques années, la plupart des sites d'information web africains étaient, j'allais dire, logés à l'étranger. Et maintenant, tous sont issus, sont ancrés dans les pays même, c'est-à-dire soit pour le Burkina, c'est à Ouaga, à Conakry pour la Guinée et à Bamako pour le Mali.
Bien, ben merci beaucoup Francis. Je crois qu'il est. Enfin, ce qui est remarquable aussi, c'est que finalement, les gens qui sont formés par Reporters solidaires, là-bas, on les retrouve souvent à des postes à responsabilité. C'est un peu les gens qui vont qui font bouger les choses. Hein. On a vu tout à l'heure en interview, on entendra Kani, qui est le rédacteur en chef de l'Express du Faso, Abdoulaye, etc. Finalement, le travail de Reporters solidaires sur place est vraiment très 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 reconnu.
Oui, alors parce que là on parle du Burkina, mais par exemple en Guinée, où on a fait venir aussi, on a fait venir, c'est peut-être un peu, ils sont venus, voilà, grâce à nos actions, et des journalistes ont pu venir, et on a par exemple l'ex-Ibrahima Kamara Sori, qui était donc journaliste radio à Conakry, qui est venu passer son master et qui restait un an à Lyon. Il est rentré, il est maintenant rédacteur en chef d'un nouveau média qui s'est créé à Conakry, directeur même de cette rédaction, et en même temps il participe vraiment à l'essor de la presse en Guinée et à la formation de ses confrères, puisque il enseigne aussi à l'Institut supérieur de la communication de Conakry, à l'ISIC. Il est prof, voilà. Donc, il rend aux autres ce qu'on lui a donné, voilà.
Voilà, le principe de la transmission.
C'est le principe de la transmission, oui, tout à fait.
Eh bien, Francis, on vous remercie infiniment de toutes ces explications qui vont nous servir d'introduction à un petit voyage radiophonique vers le journalisme burkinabé.
D'accord. Bon, je tiens aussi à préciser qu'en termes de formation, Thierry, si vous m'accordez encore 30 secondes,
allez,
nous créons à Bobo-Dioulasso, à l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso, en partenariat avec l'Institut de la Communication de l'Université Lumière Lyon 2, un master de journalisme qui ouvrira ses portes en janvier 2017. C'est dans le cadre d'un institut des médias que nous créons. Parce que, comme nous ne pouvons pas faire venir tous les journalistes que nous formons, qui participent à nos sessions de formation, aussi bien en Guinée, au Burkina ou au Mali, nous avons estimé que, nous avons pensé que créer quelque chose à Bobo, c'était mieux. Et donc c'est un institut qui est ouvert à l'ensemble de l'Afrique francophone, et nous avons une vingtaine d'inscrits actuellement. Il n'y a pas que des Burkinabés, il y a des Guinéens, il y a des Maliens, il y a des gens du Bénin. Voilà, je tenais, c'est important aussi, c'est... parce que c'est une école, c'est les prémices d'une école de journalisme qui pourra s'étendre. Nous avons des projets, voilà.
C'est très important parce qu'effectivement, c'est d'abord une très belle coopération, un partenariat entre une association de coopération de journalistes français, francophones, une université à Lyon et puis tous les acteurs au Burkina. J'ai envie encore quand même de terminer sur une question. Est-ce que dans cet engagement que vous avez pour renforcer la capacité des journalistes là-bas, est-ce qu'il y a l'idée que renforcer cette compétence journalistique là-bas, c'est aussi améliorer notre info ici?
Bien sûr que c'est améliorer notre information ici, parce que même si dans notre association certains sont retraités, il y a des actifs, des gens qui travaillent dans les médias à Lyon, mais aussi à Paris, à Marseille, bref, c'est des gens qui peuvent faire circuler l'information et apporter un œil différent de la vision que l'on peut avoir de la presse en Afrique. Donc c'est effectivement extrêmement important. Bon, nous avions des projets, c'est compliqué de monter des projets de partenariat avec des médias français parce que on est toujours un peu méfiant sur les échanges d'informations, mais nous aurions aimé, et nous aimerions, parce que je pense qu'on y arrivera sans doute un jour, à faire que l'information, comme on dit, même si j'aime pas ce langage nord-sud ou sud-nord, mais que cet échange puisse se faire bénévolement aussi, parce que ça c'est important. Parce qu'il faut bien rappeler, puisqu'on ne l'a peut-être pas dit, que Reporters solidaires, nous sommes bénévoles.
Absolument.
C'est important de le dire.
c'est vrai. Et toutes les subventions dont vous parliez vont réellement vers les projets et vers ces journalistes.
Ah oui, oui, ça ne va pas ailleurs. Et vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que c'est dur de trouver maintenant des subventions.
C'est une période particulièrement difficile, encore plus difficile que les années passées.
Tout à fait.
Eh ben, merci beaucoup encore, Francis. À très bientôt, je pense, sur les routes du Burkina ou de la Guinée, où vous irez instaurer ces nouveaux dispositifs de formation.
Merci Thierry, à bientôt.
À bientôt.
Passez le message que nous voulons vivre dans la cohésion. Enfant du Faso, passez le message que nous voulons vivre dans la dignité. Enfants du pays, passez le message que nous voulons vivre.
Vous êtes bien sûr Couleur FM et nous venons d'écouter Jacassa avec son titre « Enfant du pays ». Je remercie encore Francis Viailly et puis aussi Christine Cognat et puis aussi Christian Lanier de l'association Reporters Solidaires dont la connaissance du Burkina Faso m'ont guidé au cours de mon voyage. Le Burkina Faso est un pays où la démocratie cherche ses bases et où, incidemment, le journalisme qui est un appendice naturel de la démocratie, le journalisme donc, balbutiant, est en train de se construire. Régulation, formation, rémunération sont au centre des préoccupations des acteurs de la profession. En ce 18 mai, il fait une chaleur de plomb à Ouagadougou. 40 degrés à l'ombre. Mon ami Abdoulaye me dit que Ouaga est comme un four qui rayonne de toutes parts, du ciel, du sol et des murs. Nous nous rendons à la maison de la radio pour rencontrer Gezouma Senogo. Il est journaliste et président de l'association des journalistes burkinabés, l'équivalent de notre syndicat national des journalistes en quelque sorte. Le temps de chercher un bureau libre et un peu climatisé dans cette maison qui est loin de ressembler à notre maison de la radio parisienne. Les budgets ne sont pas les mêmes, bien entendu. Et nous nous lançons dans la découverte du paysage journalistique burkinabé. Gezouma Senogo, bonjour.
Bonjour.
Voilà, nous sommes à Ouagadougou, à la maison de la radio. Et vous êtes le président de l'association des journalistes du Burkina Faso depuis 2 ans, je crois. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette présidence? Qu'est-ce que c'est cette association des journalistes du Burkina?
Je vous remercie. En fait, l'association des journalistes du Burkina a pour mission fondamentale de défendre la liberté de presse. Et surtout, de défendre les intérêts matériels et moraux des journalistes. Et surtout de travailler à développer la confraternité entre les journalistes. Mais nous avons un outil fondamental sur lequel l'AJB veille, c'est la charte des journalistes du Burkina, donc, qui fixe les droits et devoirs des journalistes burkinabés. Donc nous défendons cet outil vraiment bec et ongle, voilà, contre les journalistes et contre le public.
Ou pour ?
Bon. Pour ou contre?
Alors cette charte, elle se fonde, j'imagine, sur les grandes chartes internationales du journalisme, avec de la déontologie?
Oui, à peu près, oui, comme la FIGE, comme la FAGE, effectivement, il y a quand même des points communs.
Aujourd'hui, le Burkina Faso vit des périodes un petit peu mouvementées dans son histoire. Les médias, les journalistes ont un rôle très important dans ce type de situation. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que la presse fait justement ce travail de clarification pour les citoyens, de lien entre les citoyens et ce qui se passe au niveau du pouvoir? Ou est-ce que c'est difficile?
La presse fait de son mieux. Et je crois que les choses ont beaucoup évolué. Quand prenons le travail de la presse, depuis bientôt 20 ans, il y a eu beaucoup d'évolution. Et je dis que si les citoyens burkinabés ont atteint ce niveau de conscience, jusqu'à 2014 avec l'insurrection, la presse y est pour quelque chose. Vous savez, c'est ce qui a caractérisé la société burkinabé ces dernières années. C'est les questions des crimes économiques et des sangs, la question de l'impunité, la question de la pauvreté, et la question de l'accès aux services sociaux de base. Je pense que sur toutes ces grandes questions, les journalistes burkinabés ont joué leur rôle. Ils ont mis à nu les dossiers des crimes économiques. Ils ont poursuivi des enquêtes sur des dossiers oubliés par la justice, de sorte à obliger la justice à porter un regard sur ces dossiers. Dans les cas échéants, à amener la société civile a toujours revendiqué la justice de ces mêmes dossiers. Je crois que sur ce plan-là, en tout cas, la presse burkinabé a fait des progrès.
Elle a fait ses progrès et elle a fait ses progrès facilement. Elle n'a pas été inquiétée pour cela.
Non, c'est pas facile. Elle s'est battue. C'est un combat. Et la presse burkinabé a mené ce combat. Beaucoup de journaux en ont pâti. Mais au bout, il y a eu quand même des évolutions. Et des journaux ont fait ici face à ce que nous appelons des redressements fiscaux. Vous savez, ça c'est voilà, le pouvoir qui abuse voilà, de son autorité. Dit, bon, si tu n'arrêtes pas telle chose, voilà un redressement fiscal, on vient, on te dit, du jour au lendemain, bon, voilà, tu dois 2 milliards au fisc. Mais c'est pour te contraindre au silence.
C'est ça, c'est le fisc, c'est un outil démocratique de la coercition, c'est ça?
Bon, en fait, ça a souvent été utilisé, voilà, comme un outil démocratique de la coercition. Beaucoup de journaux ont été exclus de la publicité institutionnelle. Tout ce que le gouvernement a comme publicité, beaucoup de journaux n'avaient pas accès à ça. Mais les gens ont poussé, avec le soutien du peuple, pour en tout cas, pour défendre la démocratie. C'est dire que ça n'a pas été du tout facile. Et ce n'est toujours pas facile. Parce que les gens pensent, bon, beaucoup avaient pensé qu'avec l'insurrection, ben, les choses allaient évoluer d'elles-mêmes. Mais nous sommes au regret de leur dire que rien n'a changé. C'est toujours la même chose, c'est le statu quo. Donc la presse burkinabé doit continuer à se battre contre vents et marées pour continuer à jouer son rôle. Parce que le public burkinabé ne s'attend plus à avoir une certaine presse ici. Les gens veulent une presse de qualité. Il y a là une presse qui défend vraiment les valeurs démocratiques, qui défend le peuple. Et c'est sur ce terrain-là que la presse burkinabé est attendue.
Alors, vous êtes journaliste à la radio publique, hein? Et c'est facile d'avoir votre rôle quand on est justement dans la radio publique?
Je dois dire que c'est pas du tout facile. Mais je suis habitué. Parce que vous savez, quand il y a eu un moment où, ici où les gens ne pouvaient pas dire ce que c'est la réalité. Parce que l'emprise du politique était tellement forte que c'était difficile. Et en 2013 ici, dans cette même radio, au Théâtre de Verdure, il y a eu une assemblée générale ici, où les gens ont dit, bon, voilà, nous en avons marre de l'immixion du politique dans notre travail. Et nous avons décidé, les gens ont décidé de manifester. Et nous sommes allés tenir un sit-in devant le ministère de l'Information de l'époque, le ministère de la Communication à l'époque, pour dire halte à l'immixion du politique dans le travail des journalistes. Et le mot d'ordre a ainsi été lancé. Bon, une année après, il y a eu l'insurrection. Et à la faveur de l'insurrection, il y a eu des émissions qui ont été créées, des émissions interactives. Aujourd'hui, on ouvre les micros ici. C'est cette même radio. Les gens critiquent le pouvoir, ce qui était inimaginable. Il y a eu des débats. Les gens débattent ici. On invite des gens qui viennent débattre, qui critiquent le gouvernement. Tout ça, là, nous considérons que c'est les acquis sur lesquels il faut se battre et qu'il faut maintenir, vaille que vaille. Donc, il y a eu des évolutions. Mais cela dit, nous ne sommes pas dupes. Voilà. Savons que les politiques cherchent à reprendre la main sur les médias publics. Et il y a des manœuvres voilà, que nous voyons. Et nous allons toujours dire non à ces manœuvres.
À quoi ressemble le paysage médiatique au Burkina Faso? Donc on vient de dire, il y a une radio publique, il y a une télé publique, il y a des médias privés, il y a des journaux, il y a des télévisions privées.
Oui, il y a vraiment beaucoup de télévisions privées, beaucoup de radios privées, beaucoup de journaux privés. Parce que je crois que ces derniers temps, peut-être depuis 10 ans, peut-être que les gens ont beaucoup de moyens, Les gens ont créé beaucoup de radios, les gens ont créé beaucoup de journaux. Mais je dois dire que pour certains journaux, il y a eu la main du politique. Voilà. Vous savez, à un moment donné ici, le pouvoir créait les médias à tour de bras pour donner l'illusion qu'en fait, il y avait une certaine liberté de ton, une certaine liberté voilà, de presse. Mais fondamentalement, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de médias que les tons varient. Vous pouvez avoir 20 médias qui ont le même temps. Voilà, qui surtout qui souffle le chaud et le froid, ou bien qui joue au chat et à la souris, voilà, qui mord un peu le pouvoir, qui mord un peu le pouvoir et qui s'empresse voilà, de revenir mettre, mettre une couche d'esparadrap. Donc, en fait, on est dans cette dynamique. Et ça fait que ces médias qui ont été créés sans réelle assise n'ont pas eu de perspective. Et ça a mené une clochardisation des journalistes. Vous savez, les gens recrutent des journalistes parce qu'aujourd'hui, bon, voilà, on a un sponsor officier et après, mais ces journalistes, ils ont quel avenir? Ça devient un problème social.
Leur statut est très précaire, vous voulez dire?
Oui, très précaire. Et c'est vraiment là le véritable problème des journalistes burkinabés aujourd'hui. Le statut est précaire. C'est-à-dire que beaucoup n'ont pas de salaire et même ceux qui ont des salaires, c'est vraiment des salaires minables, même jusque dans le public.
Même dans le public, et comment ça, ils n'ont pas de salaire?
Non, j'ai dit, les gens ont le salaire, mais c'est vraiment précaire, ça ne vaut rien.
Ouais. Et donc vous pensez qu'il y a une dévalorisation de la profession, finalement?
Absolument, une dévalorisation de la profession, parce qu'il y a une convention collective qui n'est même pas appliquée, les gens refusent de l'appliquer, les patrons passent leur temps à demander des avantages au gouvernement, le gouvernement qui donne, mais eux, ils ne font rien. Et là, c'est un problème. D'autre part, vous savez, dans les pays développés, il y a des outils qui incontournables qui accompagnent la presse. La carte de presse, par exemple. Et au Burkina, on l'a acquis. La carte de presse n'a été acquise qu'en 2009. Et pour l'opérationnaliser, c'est tout un problème. Même la convention collective, c'est en 2009 qu'elle a été signée. Et pour l'opérationnaliser, c'est tout un problème. Donc, il n'y a pas cette clarification. Voilà. La fonction du journaliste. Qu'est-ce que ça fait que tout le monde y vient? N'importe comment, on vient comme au marché.
Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir la carte de presse en France, par exemple? Il faut tirer au moins la moitié de ses revenus de l'activité journalistique. C'est ça aussi ici?
Oui, c'est ça ici aussi. Ouais, non, c'est ce qui est dit ici. Alors, au moins de la moitié. Mais contrairement à chez vous, il y a beaucoup de possibilités pour se former. Ici. Voilà, ce n'était pas le cas. Et nous pensons qu'il aurait fallu, dès le départ, voilà, et mettre cette barrière. Et je dois dire que chez vous, bon, il ne viendra plus à l'esprit de quelqu'un de payer une certaine somme à quelqu'un, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui n'est pas le cas chez nous ici.
Ah, de payer une certaine somme à un journaliste pour qu'il écrive?
Oui, même à un travailleur.
Vous en êtes sûr?
Bon, j'imagine.
Et alors, au Burkina Faso, quand on veut créer une nouvelle radio ou une nouvelle télé, comment on fait? Est-ce qu'il y a un pouvoir qui régule justement les fréquences, qui les attribue?
Oui, effectivement, c'est comme ça. Le Conseil supérieur de la communication lance un avis d'appel pour dire, bon, il y a tel nombre de fréquences qui sont disponibles et les gens postulent. Mais je dois dire que c'est fait en relation avec l'ARCEP. Autorité des régulations des communications électroniques.
C'est la
donc,
même chose en fait.
Voilà. Donc ici, c'est le Conseil supérieur de la communication et l'ARCEP qui s'en occupe. Donc il y a une régulation. Voilà. Donc on vous soumet à des cahiers de charges. Voilà. Définis des règles que vous devez appliquer.
Et dans ces fréquences, je suis très sensible en fait à l'existence des radios communautaires dans le monde. Est-ce qu'il y a beaucoup de radios communautaires au Burkina?
Oui, au Burkina, oui, il y a quand même beaucoup de radios communautaires. C'est d'ailleurs même ces radios qui sont les plus nombreuses. Voilà, au Burkina, il y a quelques radios commerciales, mais à côté les gros lots, c'est vraiment les radios communautaires.
Des radios qui font de l'information, de la sensibilisation, de l'éducation?
Oui, vous voyez, beaucoup font la sensibilisation et l'éducation. Mais bon, quelques-unes ont des sessions d'information, mais les plus gros, leur temps, s'ils veulent faire l'information, ils synchronisent. Quand ils synchronisent avec la radio nationale ou avec la radio commerciale qui est à côté, qui a une session d'information, donc c'est un peu ça. Mais en tout cas, beaucoup font vraiment dans la sensibilisation et dans l'éducation, les questions de santé, les questions de développement, questions d'hygiène. Donc, c'est vraiment, elles embrassent tout, quoi.
Ça, à côté de l'information, c'est l'un des grands enjeux des médias, finalement.
Oui, oui, effectivement, sensibiliser aussi. Et si tu regardes même ici la Radio Nationale, il y a une grande part qui est consacrée à la sensibilisation. Vous regardez, bon, ici, nous, nos journaux, peut-être nous avons commis des sessions d'information. Il y a peut-être 6 sessions d'information en dehors des flashs, mais tout le reste, c'est en fait ça. La sensibilisation et bon, un peu de distraction, mais vraiment, on a beaucoup d'émissions ici qui sont consacrées à ces questions-là. Santé, on a la santé, on a l'environnement, on a l'éducation, voilà, et bien d'autres. Et bien d'autres. On a même, bon, souvent on a même une émission ici qu'on appelle Burkina Variété où les gens vont causer avec les villageois. Ils vont dans un village, ils vont causer, c'est une causerie éducative. Et à la fin, ben, c'est comme un concours à la même temps. À la fin, on prime les meilleurs. Qu'on prime les meilleurs, donc c'est. Voilà, c'est un peu ça.
Eh ben, c'est très bien. Dernière question peut-être, est-ce que vous êtes optimiste, positif par rapport à l'avenir de la profession au Burkina?
Bon, on a oublié d'être optimiste. Et je pense que la décantation va se faire. Quand je dis décantation, ça veut pas dire qu'il faut qu'on va chasser quelqu'un. Non, on ne chassera personne. Mais je crois que ce que la nouvelle loi prévoit, c'est que si tu as un diplôme de journaliste, bon, et tu viens, tu peux être reconnu tout de suite comme journaliste. Mais si tu as autre diplôme, il faut forcément faire un stage d'une année. Si tu n'as pas du tout et de diplôme, bon, il faut faire 2 ans de stage. Et le comité, la carte de presse, va t'évaluer avant de te donner la carte de presse. Il pense qu'en fait, ça ce n'est dirigé contre personne. Mais ça veut dire qu'il faut, vraiment mener un travail de fond pour au moins avoir une assise. Une assise au niveau des journalistes. Parce qu'il faut que les journalistes soient respectés. Et il ne peut pas être respecté s'il fait de l'à peu près, s'il fait de l'approximation. Mais quand vous êtes à l'antenne et que vous faites une connerie, 2 conneries, 3e connerie, là, les gens commencent à dire, mais lui là, il vient d'où? Et à partir de votre cas précis, les gens jugent tous les journalistes. N'oubliez pas, au Burkina, nous sommes dans un pays d'extrémistes. On ne le dit pas, mais le Burkina, oui, il est extrémiste. Que l'extrémisme, ça veut dire qu'il va d'une extrême à l'autre. S'il t'estime, il t'estime. Mais s'il ne t'estime pas, là, tout ton entourage là, est éclaboussé. Voilà. Et je pense que ça commence par là. Parce que nous avons des revendications. Et chaque fois, nos revendications, en fait, sont freinées par ces gens, les jugements. Vous pouvez entendre, les journalistes burkinabés, ils ne valent rien. Parce que les gens ont suivi France 24. Ou bien France 2, ou bien France 1, avec des émissions comme Envoyé spécial, n'est-ce pas? Et ils vont faire des reportages en Irak. Et chaque Burkinabé rêve de voir les journalistes burkinabés le faire. Mais qu'est-ce qu'on fait pour résoudre la question de la précarité? C'est pas les compétences qui manquent. Mais si tu veux demander à quelqu'un d'aller faire un reportage en Irak, encore faut-il que l'organe de presse puisse payer un billet d'avion jusqu'en Irak, payer un hôtel, payer des agents de sécurité là-bas, payer un guide, et payer une assurance pour que toi-même, ta famille, soit à l'abri ici. En fait, c'est tout un ensemble. Et nous devons... D'ailleurs, les revendications existent. Mais nous avons des plateformes, une plateforme que nous défendons. Voilà, nous avons demandé un statut particulier pour les journalistes, ce qui n'est même pas l'équivalent de la convention collective, ce qui n'est même pas un acquis ici chez nous. Et chacun rêve des journalistes qui va aller sur les grands fronts. Les gens ont la volonté, mais il faut un travail de fond. La question sociale, si elle n'est pas résolue, vous voulez quoi? Il n'a même pas un bon salaire. Et c'est son salaire qu'il va prendre pour aller là-bas. Donc, avec l'influence des médias publics, les médias internationaux, les Burkinabés se trouvent à rêver, tu vois, non?
Je crois qu'il faut expliquer à la population que peut-être TF1, France 2, etc. ne sont pas des modèles à suivre.
Bon, ça, de toute façon, c'est leur modèle. Quoi, c'est leur modèle? Et les gens ne jurent que par ça. Vous rendez visite à un ami le soir à l'heure du journal de 20h, là, c'est pas la RTV que les gens suivent. Bon, peut-être les gens vont commencer quand ils vont faire la ronde des radios commerciales, telles que voilà, quelques radios commerciales là. Bon, ils vont pas faire la ronde. Puis maintenant, ils viennent, ils s'installent maintenant sur France 24 et puis les médias français. Voilà. Bon, maintenant, moi, je suis mal placé pour leur dire que ce n'est pas un modèle. De toute façon, ils l'ont choisi comme modèle. Et puis bon, on va regarder. Mais maintenant, c'est à nous de travailler pour à la hauteur. Au moins, rendre compte d'abord de façon objective. On ne sait pas dans notre environnement. Je pense que ça va contribuer à ça, à notre crédibilité.
Eh bien, j'espère. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps.
Merci à vous, vraiment, voilà, pour au moins avoir cherché à comprendre hein, l'environnement médiatique ici au Burkina. Ça, c'est important.
Ce qui est vrai ne demande jamais pardon. Ils donnent la leçon. Dirige les âmes qui ne peuvent plus dire non. Mais qui sont-ils? Mais qui sont-ils? Mais qui sont-ils? Pour refuser ta venue, il nous faut désormais te centrer dans la rue. Ils donnent la leçon. Pour eux c'est normal, ils possèdent la raison. Ils donnent la leçon. Tu dois l'exécuter, sinon c'est la prison. Mais qui sont-ils?
Pour dire ce que tu es.
Mais qui sont-ils?
Pour dire ce que tu dois faire.
Mais qui sont-ils? Yeah. Pour refuser ta venue, il nous faut désormais te centrer dans la rue. Mais ça me sera ton boum fan. Tiens, c'est qu'un bam ton couille boum bego. Ma caramba ton yel boum ma fan. Missy la wan, la karatu kosi souri. Bam ya ana.
Vous êtes bien sur Couleur FM et nous venons d'écouter de nouveau Jakassa avec un deuxième titre, La Leçon. Nous continuons notre route au Burkina Faso. De Ouagadougou, où nous avons rencontré Guézou Massénogo, le président de l'association des journalistes burkinabés, nous nous rendons à Bobo Dioulasso, au sud-ouest du pays. C'est là qu'a lieu la formation des reporters solidaires. Là-bas, je prends le temps d'un entretien avec Abdoulaye Ouattara, qui fut mon guide tout au long de cette découverte du paysage médiatique du Burkina. Alors voilà, on est à Bobo Dioulasso toujours, et puis aujourd'hui, je rencontre Abdoulaye Ouattara. Abdoulaye Ouattara, c'est un ami, c'est un collègue qu'on connaît, qui vient en France nous rendre visite assez souvent, et avec qui on aime beaucoup travailler. Abdoulaye, bonjour.
Bonjour Thierry.
Et Abdoulaye, alors tu interviens dans différents médias ici, alors tu es correspondant de RFI, qu'on connaît bien en France, mais tu travailles aussi pour d'autres radios et d'autres télévisions, je crois même, au Burkina.
Oui, je suis journaliste donc de la radio Ouara FM, qui est une radio qui émet en simultané sur les deux grandes villes du Burkina, Ouagadougou et Bobo Dioulasso, mais qui a aussi un réseau de radios partenaires, 8 à travers le pays, et qui émet sur le Bougou et CanalSat et sur Internet. Je suis également producteur d'émissions pour la RTB2 au bassin, c'est la radiodiffusion télévision du Burkina, donc la section décentralisée dans les régions du Burkina, et je fais des émissions sur la décentralisation et le développement local.
Et des émissions notamment en langue locale qui est le Dioula.
Oui, je fais des émissions en langue locale Dioula, qui est une langue assez parlée dans l'ouest burkinan. Et d'ailleurs, j'ai dit pour RFI, je parle également le Dioula avec le programme RFI Madinka.
C'est important de faire ces programmes en langue locale ici?
Oui, assez important. Quand on regarde un peu le taux d'analphabétisme dans nos régions, on se rend compte tout de suite que la majeure partie de nos populations ici parle cette dialecte-là. En s'exprimant à travers cette dialecte, on est sûr d'atteindre en tout cas le maximum de personnes, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieilles personnes, qui n'ont pas été à l'école, qui ne comprennent même pas un mot du français, mais qui sont aussi heureux de s'entendre dans leur langue.
Parce que là, on touche finalement l'une des vocations de ton métier, c'est-à-dire qu'on informe, et c'est très important d'informer, mais en même temps, on éduque et on sensibilise.
Bien sûr que c'est notre métier, c'est notre mission, et il faut trouver le bon ton pour le faire, il faut trouver le langage pour le dire, et je pense que en le disant dans la langue, en tout cas parler au maximum, ça nous permet bien sûr d'atteindre notre objectif. D'où depuis plus de 10 ans, je me plais en tout cas à parler la langue locale sur des radios et la télévision.
Alors, est-ce que c'est facile d'être journaliste aujourd'hui au Burkina Faso? Je sais que tu es notamment le représentant dans la région de l'association des journalistes burkinabés. C'est une fonction facile aujourd'hui?
Facile, mais difficile en même temps. Facile dans ce sens que quand on regarde au niveau de la liberté d'expression, les gens s'expriment, ça c'est un acquis, c'est un atout. Mais difficile aussi dans ce sens que vous avez en face de vous des journalistes. Et quand on fait un peu le taux, vous vous retrouvez avec 80% qui n'ont pas été dans une école de journalisme, et qui sont dans des radios privées, qui écrivent dans des journaux privés. Vous voyez déjà la difficulté, parce que la compréhension du métier, il y a des soucis. Mais aussi, sur le plan de la rémunération, vous vous rendez compte que c'est des gens qui ne sont pas bien rémunérés, et du coup, ça donne un coup dur à notre métier, où quand vous avez un personnel qui n'est pas bien payé, qui n'a souvent même pas de salaire fixe à la fin du mois, qui vivent au jour le jour, vous voyez que c'est difficile de protéger la corporation. Donc c'est un travail que nous sommes en train de faire. Dieu merci, le Conseil supérieur de la communication maintenant est en train de mettre des garde-fous pour que toute radio ou tout journaux qui vont émettre dans notre pays puisse avoir ne serait-ce que deux à trois professionnels dès la création. Ça c'est déjà un atout pour nous. On pense que ça va permettre en tout cas de valoriser le métier du journalisme.
Et alors ce problème de rémunération, il vient de quoi? Il vient de l'économie des médias eux-mêmes?
Oui, l'économie des médias, mais peut-être que, je dirais, les premières radios créées ou les premiers médias créés, certainement n'ont pas assez misé sur cette partie. Je crois que ça a été fait par des gens qui ont pensé qu'on pouvait faire du commerce, de l'économie, en créant un média. Donc, pour eux, l'objectif n'était pas donc d'apporter un outil de sensibilisation, d'éducation, mais c'était un outil donc commercial. Et après, on se rend compte que dans ce métier, il y a des règles qui rend donc très difficile la gestion de ce personnel-là. Même au fur et à mesure qu'on avance, les gens commencent à comprendre. Il y a des journalistes qui commencent à ouvrir leurs propres médias, qui ont donc une bonne compréhension donc de leur métier, et ça fait changer les choses.
Du coup, comment vivent les journalistes s'ils ne sont pas bien payés? Ils arrivent quand même à s'en sortir? Ils ont d'autres moyens?
D'autres moyens, ça va être... quels moyens? C'est ce que nous essayons de combattre. C'est la question des enveloppes. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas de salaire fixe à la fin du mois, qui certainement est venu par passion, je l'espère, alors il se donne à un métier et à la fin du mois, il se pose la question, mais comment je nourris ma famille? Donc devant une enveloppe, il ne va pas donc céder. Et c'est ce que nous sommes en train de combattre et nous espérons que nous serons bien compris et que ceux qui viennent dans ce métier vont poser les bases.
Alors au niveau de la formation, on est là tous les deux parce que il y a l'association Reporters Solidaires qui organise ici des formations pour les journalistes burkinabés, maliens, guinéens. Est-ce que c'est important cette formation?
Mais très important. Vous allez vous rendre compte que à Bobo-Dioulasso, par exemple, quand on a commencé avec une vingtaine de journalistes pour les former avec Reporters Solidaires, alors on s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait cette soif d'être formé. Et on a vu aussi que ça changeait l'écriture de certains journalistes. Donc on a vu l'importance de ce travail de formation entreprise par Reporters Solidaires et l'Union des journalistes communicateurs et correspondants de presse des Hauts-Bassins qui se sont mis ensemble pour donc mettre ce projet-là. Donc c'est une satisfaction pour nous et on s'en réjouit et on espère que ça va se poursuivre pour permettre encore à d'autres journalistes d'en bénéficier et parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup qui sont venus dans ce métier, qui n'ont pas eu de formation de base, qui n'ont pas eu en tout cas de formation sur les béabas de ce métier-là et qui en ont beaucoup besoin. C'est la question de déontologie, c'est la question d'éthique, c'est la question donc de genre journalistique, d'écriture journalistique. Tout ça, des jeunes en ont besoin et il est de notre devoir en tant qu'aîné de pouvoir donc apporter en tout cas ce soutien à nos jeunes frères qui en tout cas ont un penchant pour ce métier-là.
Bah on voit qu'en tout cas que ceux qui sont là sont extrêmement motivés, comme tu le disais, et que peut-être effectivement il y a, enfin on sent qu'il y a quelque chose en construction au Burkina Faso et que la presse elle n'en est qu'à ses débuts mais qu'elle a certainement un grand avenir.
Oui, la presse a un grand avenir à Bobo-Dioulasso parce que Bobo c'est la deuxième ville de Burkina et après Ouagadougou. Déjà nous voyons que nous sommes en train de rentrer vraiment dans une phase importante, donc du pluralisme médiatique au Burkina. Les radios s'est créées, on a pas mal de radios confessionnelles, la radio communautaire, on a pas mal de radios locales. Et tout ça, ça permet aux gens de s'exprimer. Et à Bobo-Dioulasso également, avec Reporters Solidaires et l'Université Lyon 2 et l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso, on réfléchit à comment encore améliorer cette formation en créant donc l'Institut des médias.
Voilà, fin de ce premier épisode consacré au Burkina Faso et à ses journalistes. Suite la semaine prochaine, même jour, même heure, pour continuer notre découverte avec Kani, le rédacteur en chef de l'Express du Faso, Félix Cambiré, le délégué régional du Conseil supérieur de la communication, Alousseini Aladji de Radio Djamana à Tombouctou, et aussi, rien à voir avec le journalisme, avec Madame Ouattara Diabala du groupement Sabalkani, un groupement de femmes étonnantes. Les deux titres que nous avons écoutés aujourd'hui sont l'œuvre de Djakassa, un artiste burkinabé vivant à Lyon et que nous avons reçu il y a quelques mois à Couleur FM. L'album est sorti en 2015 et s'intitule « Enfant du pays ». Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet couleurfm.com et j'espère vous retrouver la semaine prochaine.